mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie sélectionne pour vous les bouquins des livres nomades et vous donne l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, et eh bien c'est l'heure des coups au cœur, l'émission de Littéra 05 qui vous propose donc un aperçu d'un livre qu'on a aimé. Aujourd'hui, moi je voudrais vous faire découvrir, si vous ne l'avez pas lu, Magnus de Sylvie Germain. Oh Sylvie Germain, je n'en dirai pas grand chose parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Savez-vous qu'elle a écrit à peu près une quarantaine de livres? C'est absolument extraordinaire. Elle a eu de nombreux prix, le prix Fémina, le prix Goncourt des lycéens, qu'elle a beaucoup aimé parce que c'est un livre donné par les jeunes. Elle est romancière, donc essayiste, dramaturge française contemporaine. Elle a 66 ans. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de son roman Magnus, qui n'est pas jeune, je dirais, puisqu'il est paru en 2005. C'est l'histoire de Franz-Georges, en deux mots. C'est un enfant allemand, né juste avant la guerre. Il porte sur chaque chose, chaque personne, dont ses parents, un regard plein de candeur et d'étonnement, examinant tout avec minutie. Le regard d'un convalescent qui a frôlé la mort et qui réapprend à voir, à parler, à nommer les choses et les gens, à vivre. L'année de ses 5 ans, il est tombé gravement malade et la fièvre a consumé en lui tous les maux, toutes ses connaissances fraîchement acquises. Il ne lui reste aucun souvenir. Sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance. Des ombres néanmoins la parcourent parfois, venues il ne sait d'où. Sa mère, Théa du Keltal, consacre tout son temps à rééduquer son enfant oublieux et mutique. Elle lui enseigne de nouveau sa langue et à mesure, elle lui restitue son passé perdu en le lui racontant, épisode par épisode, ainsi qu'un feuilleton dont il est le personnage central et elle, la bonne reine, veillant sur lui. Elle le remet au monde une seconde fois par la seule magie de la parole. Dans ce feuilleton en forme de conte qui l'enchante, car, comme tout conte, il brasse le terrible et le merveilleux. Chaque membre de la famille a une stature de héros. Lui, en tant que victime d'une fièvre vorace qu'il a cependant réussi à vaincre. Sa mère, en tant que fée bienfaisante. Son père, en tant que grand médecin. À ce trio s'ajoutent 2 autres figures, bien plus valeureuses et admirables encore. Celles des jeunes frères de sa mère, tués à la guerre et à l'égard desquels il lui incombe de témoigner fierté et gratitude à jamais. Car c'est pour lui qu'ils se sont sacrifiés en partant combattre dans une contrée lointaine où les hommes sont aussi cruels que le climat, pour qu'ils grandissent dans un pays de gloire et de puissance. Donc ses parents, sa mère, qui lui a redonné la parole, qui lui a redonné les mots, et son père. C'est un petit peu plus compliqué avec son père. Il s'appelle Clémence, d'une Keltal, est médecin. Mais il n'a pas de clientèle privée et ne travaille pas dans un hôpital. L'endroit où il exerce son métier se situe non loin de leur village, mais Franz-Georges n'y est jamais allé. À son allure majestueuse, à son air grave, le docteur Dunkenthal doit être un homme important, un magicien de la santé. Il reçoit des patients par milliers dans son vaste asile de la Lande et tous souffrent certainement de maladies contagieuses puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. Franz-Georges se demande d'où peuvent bien venir ces foules de malades. de toute l'Europe, a dit un jour sa mère, avec une imperceptible moue d'orgueil et de dégoût confondu. L'enfant a cherché dans un atlas et est resté pantois. L'Europe est tellement vaste, les peuples si nombreux. Le père est souvent absent, et lorsqu'il reste à la maison, il n'accorde que peu d'attention à son fils. Jamais il ne joue avec lui, ni ne lui raconte des histoires. Et quand il daigne s'intéresser à lui, c'est pour lui reprocher sa passivité. France Georges ne trouve ni l'audace, ni les mots pour lui expliquer que la contemplation n'est nullement de la paresse, mais un patient exercice de dressage de sa mémoire. Il ravale les larmes d'impuissance de ne pouvoir exprimer ce qu'il pense et ressent, et surtout de tristesse d'échouer à plaire à son père. Il aime cependant son père parce que, en fait, son père a une très belle voix de baryton, et certains soirs, ils invitent des amis et ils chantent, et il est subjugué par la voix de son père. C'est le lien qui existe entre lui et son père. À cette famille de trois s'ajoute un quatrième personnage. Aussi séduisante soit l'épopée familiale pleine de noblesse et de tristesse, elle souffre néanmoins d'un défaut, petit en apparence, mais qui chagrine beaucoup l'enfant. La mère n'y accorde aucune place à Magnus, qu'elle traite d'ailleurs avec mépris, voire répugnance. Or, Magnus et lui, France-Georges, sont inséparables. Alors il introduit clandestinement son compagnon dans la légende, il invente pour lui des scènes qui lui murmurent longuement à l'oreille, celles qui portent la trace d'une brûlure pour la consoler, quand ils sont seuls tous les deux. Des scènes où Magnus tient un rôle égal au sien. Magnus, donc, vous avez compris, son ours en peluche dont il a fait son confident et son ami. Mais très vite, les choses vont changer. Le père se montre préoccupé depuis quelque temps. Il tient de longs conciliabules avec la mère ou avec certains de leurs amis tout aussi rembrunis. L'enfant est tenu à l'écart de ces conversations dont il saisit cependant des bribes. Parmi les mots qui reviennent souvent dans les discussions, il y en a un qui l'intrigue et l'inquiète, typhus. Les malades que soigne le docteur Duncanvital succombent par milliers à cette infection. France-Georges a essayé de se renseigner, mais il lui est plus difficile de s'enquérir du sens d'un mot dans un dictionnaire que de l'emplacement et de l'étendue d'un continent dans un atlas, car il ne maîtrise que faiblement la lecture. Mais comme il entend encore davantage prononcer les mots « guerre »,« ennemi », »,« défaite », il les amalgame à nouveau à celui de « maladie », donc de « typhus ». Clémence Duqueltat, lui, ne confond rien, et il prend avec une aigre lucidité la mesure du danger qui croît. De jour en jour, lui et ses amis perdent de leur superbe. Il leur vient une nervosité croissante, un air traqué et hargneux. Tous changent soudain leur façon de s'habiller, de se saluer, de se comporter. Ils abandonnent leurs uniformes si imposants, leur salut bruyant et solennel, ont le verbe moins haut et la démarche moins martiale. Ils finissent par raser les murs. Une nuit de mars, les Duncanvital s'enfuient de leur maison avec une discrétion de voleur. France-Georges, accroché d'une main à sa mère, étreint de l'autre son ours pour conjurer sa peur de la nuit et de l'inconnu. Dans son esprit, il fuit un ennemi redoutable nommé typhus, venu de tous les coins de l'Europe. Est-ce la même fièvre que celle qui a failli le tuer moins de 2 ans auparavant? Mais alors ses oncles seraient morts en vain, et la légende familiale ne serait plus qu'un leurre. Il s'enfuit vers le sud, il se terre dans des caves, dans des granges. Ils ont absolument tout perdu. Ils ont faim, ils ont peur, ils ont même échangé leur nom. Et puis, le père décide de se séparer de France et de sa mère. Il pense qu'il pourra mieux se cacher s'il est tout seul. Il les rejoindra dès qu'il pourra. Alors la mère et l'enfant survivent dans une chambre louée. La mère a trouvé un petit travail de cuisinière dans un hôpital pour leur permettre de survivre. À partir de là, ça s'achève leur errance. Et puis, ils sont là tous les deux, en attente du retour du père. Il réapparaît un jour, mais amaigri, mal rasé, au regard de bête traquée. Il leur annonce qu'il est question de partir pour un pays lointain. Il a choisi le Mexique. Il partira seul d'abord et fera venir France et sa mère dès qu'il n'y aura plus de danger. À partir de là, France va peu à peu découvrir des éléments qui lui feront découvrir justement la vérité. Il a maintenant 9 ans. Il est vrai que France a déjà 9 ans, mais il n'est nullement pressé d'entrer dans les rangs des adultes. En grandissant, il commence à mieux comprendre leur comportement, leurs plaisirs et leurs tracas, mais sans encore en pénétrer la signification. Et il ne cherche pas à approfondir sa compréhension de la nébuleuse des grandes personnes, car le peu qu'il en déchiffre ne lui paraît guère captivant. Il devine quelque chose de mesquin, de misérable même parfois, dans leurs préoccupations autant que dans leurs satisfactions. Et puis il se révèle bien peu fiable. Ils vaquent tranquillement à leurs affaires pendant des années et subitement ils abandonnent tout, se sauvent, changent de nom comme de chemise et à la fin s'enfuient au bout du monde. Mais il y a pire. Les adultes sont capables de tout casser, tout brûler. Les maisons, les ponts, les églises, les routes, des villes entières. Il a vu cela et il vit toujours dans un paysage de ruines. Mais il semble qu'il y ait encore pire que cette folie-là. La destruction non plus seulement de villes, mais de peuples entiers. Voilà qui dépasse l'entendement du jeune Franz. Il a entendu des histoires invraisemblables à ce sujet et surtout aperçu des photos qui à la fois fascinent et aveuglent le regard. Des monceaux de corps squelettiques, pareils à des fagots de bois blanc jetés en vrac. Des morts vivants aux yeux énormes, hallucinés dans des trous d'ombre. Des enfants si maigres et fripés qu'ils ressemblent à de petits vieillards à tête chauve, trop lourdes pour leur cou, réduits à la taille d'une tige de rhubarbe. Et sa mère, loin de lui expliquer quoi que ce soit, de l'aider à affronter ces révélations qui provoquent une déflagration mentale et laissent la pensée à plat en miettes, refuse d'en discuter. Elle s'acharne même à nier les faits, allant jusqu'à taxer les informations de mensonges et de trucages les photographies divulguées. De même, il se pose beaucoup de questions à propos de son père parce qu'il entend beaucoup de choses. Il vient d'être déclaré criminel de guerre, son père, au cours d'un procès qui a lieu, tous les procès qui ont eu lieu en Allemagne après la guerre. Ils apprennent un jour que le père est bien arrivé au Mexique, puisqu'il est parti seul. Il est arrivé donc au Mexique pour essayer d'échapper justement au jugement de Nuremberg. Mais cette nouvelle va être suivie d'une autre, plus définitive. Le père s'est suicidé. À partir de là, il y a un changement radical chez la mère. Elle ne s'intéresse plus à rien et elle confie Franz à son frère Lothar, un frère de la mère donc, de Théa, qui est pasteur en Angleterre où il a fui au moment de l'arrivée d'Hitler parce qu'il avait épousé, il a épousé une femme d'origine juive. Donc pour échapper aux persécutions, ils sont partis en Angleterre. Elle lui dit, un jour donc, Lothar arrive chez eux et elle lui dit, tu vas partir avec lui à Londres, ta valise est prête, tout est en ordre. Après l'avoir remis au monde par la grâce de la parole quand il était petit, elle l'expulse à présent loin d'elle par la dureté d'une poignée de mots. Et l'enfant comprend qu'il s'agit d'un adieu, qu'il ne reverra jamais sa mère. Mais ce qui est terrible pour lui, donc il va partir à Londres, son oncle est très gentil avec lui, mais ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il se sent... Il se sent lié complètement à la réalité monstrueuse de ce qui s'est passé pendant la guerre, puisque c'est son identité, il est allemand. Hein. Alors, il va essayer de comprendre et de se pencher sur sa mémoire anéantie. Il ne veut plus rien entendre de ce qui s'est passé, mais il sent qu'il a que jusqu'à ses 5 ans, Il s'est sans doute passé quelque chose qu'il ne sait pas, puisqu'il n'a plus de mémoire. Alors que s'est-il passé, justement, dans sa petite enfance? Il va essayer de comprendre. La première chose qu'il fait, c'est de prendre le nom de son ours Magnus. C'est un symbole, lui. Il a été le témoin de son passé. Il sait ce qui s'est passé, Magnus. Alors il prend le nom de Magnus. Puis, jeune adulte, il va partir au Mexique sur les traces de son père. Et là, de sa mémoire, vont ressurgir des événements, justement, qui lui feront comprendre. Il se lie d'amitié avec un jeune couple d'Américains à Veracruz. La jeune femme, May, lui offre un livre qui va jouer un grand rôle. C'est Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Il va être complètement happé par ce livre, qu'il lit aussitôt arrivé dans sa chambre, après avoir dîné avec le couple. Il lit d'une traite l'histoire du personnage Juan Preciado, parti sur les traces de son père, qu'il n'a jamais connu, un certain Pedro Páramo, qui régnant en petit despote dévoré d'ambition et de goût du pouvoir dans le village de Comala. Mais Comala n'est plus qu'un village perdu, hors du temps et de la vie, chauffé à blanc sous un soleil de mort. On y est sur les braises de la terre, dans la gueule même de l'enfer. Car tout est mort à Comala. Et le récit de Rulfo est une étrange polyphonie funèbre où des ombres entretissent leur voix errante et lancinante. Adam, c'est son nouveau nom, il a changé plusieurs fois de nom, marche dans les pas de Juan Preciado, le fils en quête de son géniteur dissous dans la poussière brûlante de Comala, au mur couleur d'os que frôlent des voix défuntes, persistant à parler dans l'absence, à ressasser les souvenirs de leur pauvre vie depuis longtemps en allée. Juan Preciado est son double, son guide dans les décombres de la mémoire, dans le labyrinthe de l'oubli. Et Pedro Páramo, odieux caudillo de province, homme brutal et hautain, est l'ombre portée de Clémence du Quintal dans Comala, village de nulle part, de partout, lieu insituable et obsédant, village ossuaire, suintant de résonance, d'appels et de plaintes. Village mirage au carrefour des vivants et des morts, du réel et du rêve. Voilà, ce livre va faire en lui comme une déflagration. Il sent qu'il est très proche du personnage du jeune garçon, et alors il va partir seul à Comala. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce passage qui est si beau. Il chemine vers Comala, vers nulle part, vers lui-même. Il avance à pas zigzagant, forcené. Il est un pèlerin de colère venu tordre le cou au spectre paternel, et aussi bien à l'enfant nié qu'il fut et qui aimait ce père. Mais le fantôme se dérobe sans cesse. Il le nargue, l'épuise, et sa colère s'acère et s'épure à mesure. Il sait bien que sa chasse est absurde, vouée à l'échec. Il ne désarme pas pour autant. Il sent qu'il se trame quelque chose d'indéfinissable, d'insensé et cependant puissant. Quelque chose entre lui et ce lieu, entre lui et ce moment en marge du temps. Et ce qui conspire en lui ébranle sa mémoire, la désamarre et peu à peu la fait tourner. Puis le tournement s'accélère, des milliers d'images filent à rebours devant ses yeux, comme un mourant voit fulgurer tout son passé. Une crue de vision sonore déferle en lui. Mais son père ne figure dans aucune d'elles. Le sursaut de mémoire qui lui vient monte d'ailleurs, de plus loin. C'est une lame de fond s'élançant du cœur de la nuit où il est mort, lui, Adam Schmalker, avant qu'il ne se fasse appeler ainsi, et avant même qu'il ne se nomme Franz-Georges du Quintal. Avant, éperdument avant. Avant, au vif de l'instant présent. Il entend le mugissement d'un orgue colossal, d'assourdissants coups de cymbales, le vrombissement de millions de tambours. Un orchestre fou joue dans le ciel. Il joue avec des instruments d'acier, de feu. Son tumulte s'engouffre jusque dessous la terre qui tremble et hurle. C'est un corps un cœur discordant d'hommes et de femmes de tous âges, d'enfants, de nourrissons, de chiens, qui hurlent ainsi en répond au fracas de l'orchestre. Il est un des lambeaux de cette clameur pulvérisée. Il court en criant et pleurant. Il voit le ciel se déflagrer, se rompre comme une digue, et des torrents de lave noire, de météorites rutilants, d'éclairs blancs soufrés jaillir d'entre les brèches. L'orchestre fou joue du feu à outrance. Il voit des humains et des bêtes se transmuer en torches vives, d'autres se fondre à l'asphalte liquéfié qui clapote dans les rues éventrées, d'autres encore être déchiquetés. Il voit l'eau s'embraser dans le port, les canaux, les rivières, les bassins, les caniveaux. Partout, l'eau prend feu et s'évapore en chuintant. Elle s'enflamme jusque dans les larmes sur les visages des égarés, des mourants. Il sent l'âcre pestilence des chairs brûlées, la fadeur nauséeuse des chairs bouillies, la puanteur du sang et des viscères. Il voit des torsades d'un jaune cru, des coulées vermeilles, des éclaboussures d'un orange aveuglant tomber du ciel, lacérer la nuit. Une orgie de couleurs à la fois visqueuses et limpides, de gigantesques crachats d'or et d'écarlate pour couronner la ville défunte. Il entend tonner des crachats de couleurs. Et soudain, parmi les pantins disloqués qui courent en tous sens, il voit une femme se couvrir de flamèches safran, les cheveux jusqu'aux pieds, danser une valse solitaire, frénétique, en poussant des cris suraigus. Il la voit s'écrouler, se tordre encore quelques secondes et plus rien. Il ne sait plus, ne voit ni n'entend plus rien que cette femme flambeau qui se réduit à un tas informe d'un noir rougeoyant qui fume et qui pue. Sa mère, une fée, une sorcière, un tronc d'arbre, un ange foudroyé, une inconnue. Il la regarde se consumer, se calciner. Il la regarde, yeux grands ouverts, s'effacer de sa vue, s'effacer de sa vie. Yeux grands ouverts, grands aveugles, et la regarde, la regarde. Merci, à bientôt.
All I've done so much wrong, but please give me strength to care.